Mais qu'est-ce que c'est ça?
Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Dossier bizarre. Monsieur Tristan Brunet-Dupont, bon matin.
Bon matin, Jason Lévesque.
Nous autres, c'est le matin. Là. Fait qu'on a le droit de dire bon matin, mais aux auditeurs, on va dire ben, bon moment de la journée au moment où vous nous écoutez.
Oui, absolument. joyeux dimanche. On est dimanche.
En plus.
Et je dirais joyeux présent si vous êtes en 2029, 2035. C'est rendu que les auditeurs nous écoutent. C'est un balado. Hein. Donc, le balado, pouf, un coup qui est mis en ligne, là, on peut l'écouter 10 ans plus tard. On peut tomber sur Dossier bizarre d'une manière aléatoire. Fait que c'est ça, Dossier bizarre.
Hey, c'est bizarre.
Fait que peut-être qu'il y a du monde qui nous découvre en ce moment, en 2040, on ne le sait pas.
Et voilà. Alors, ben oui, c'est ça, on est en fait là, dans la période de temps réel au moment de l'enregistrement. On s'approche à grands pas de la période de Noël, la période des fêtes, la période des festivités, appelez ça comme vous voulez. Et ben, c'est une période ben où oui. On est extrêmement occupé, mais ce matin, on a décidé d'enregistrer à un moment où on n'enregistre pas d'habitude pour justement être capable d'en faire un cette semaine. Et il y en aura probablement un dernier là, avant la pause des fêtes. Donc, on essaye très, très, très fort là, d'en faire au moins deux avant la nouvelle année.
Absolument. Et t'as une belle tuque de
Noël.
Eh
bien, oui, j'ai une tuque de Noël. Wouhou!
Et un petit merci à nos auditeurs parce oui. qu'on a reçu le récapitulatif Spotify.
Hey,
et plusieurs personnes qui nous ont envoyé des photos de Spotify, top 1, top 2, top 3. Vous nous écoutez et c'est franchement vraiment le fun de voir ça. Merci parce que ben, c'est ça. C'est toujours surprenant de voir à quel point parfois les gens nous écoutent et on se ramasse dans le top 1, top 2, top 3 des trucs les plus écoutés sur Spotify par certains auditeurs. Alors, un gros merci de nous écouter, de nous partager vos commentaires et de nous suivre, vos idées, vos suggestions. Un gros merci du fond
ben
du cœur.
Oui. Hey, on a des fans très, très, très actifs. Très dynamique, très ouvert à nous parler directement. On reçoit des messages des fois, Tristan. Puis je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y en a des très, très, très personnels. Mais il y a des messages qui nous touchent des fois. Là. C'est incroyable. On en a reçu des dizaines là, depuis 5 ans. Là. C'est des dizaines et des dizaines de messages comme ça, très personnels, très émotifs. Puis ça nous touche beaucoup. Puis on n'avait jamais envisagé que ça irait à ce point-là, là, que les gens... nous adopterait comme ça et nous amènerait dans des moments vraiment très, très intimes de leur vie. Donc, merci beaucoup. Merci de nous écouter comme ça puis de nous en faire part aussi. C'est un peu comme ça fait des années que je fais de la radio. C'est à peu près le même phénomène. Hein? La radio, des fois, on pense que personne ne nous écoute, personne n'apprécie ce qu'on fait. Puis là, on reçoit un appel. On reçoit un autre appel. On reçoit un petit message. On reçoit un cadeau. Puis on se rend compte que finalement, ben, on a un impact sur les gens. Alors, merci, merci beaucoup.
Absolument. Hey Jason, je suis grippé ce
ben
matin,
oui.
Donc je me suis dit là, ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas fait. Samedi passé, j'étais malade aussi. Écoute, c'est le temps de l'année où les microbes nous sautent dessus.
Ben, on se fait
là, j'ai pris assez de café. Je suis caféiné, mesdames et messieurs. Alors, on va pouvoir faire un sujet et peut-être qu'il va être un peu plus court que d'habitude, mais quand même, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui, je le sens, Jason.
Ben oui, puis on va en faire un sujet. Donc, on va se dépêcher à commencer avant que le café arrête de faire effet.
J'en ai une carafe pleine. Alors,
ah, excellent.
J'ai un refill pendant la pause.
Donc, Tristan, c'est toi qui vas nous présenter un sujet ce matin. De temps en temps, on aime ça sortir des sentiers battus un peu puis aller plus soit du côté philosophique, du côté scientifique, du côté des trucs qui nous intéressent. C'est vraiment ce qu'on présente. Nous autres, c'est des trucs qui nous intéressent. Fait que ce matin, on sort un petit peu du sentier des Bigfoot puis des tueurs puis des phénomènes paranormaux. On s'en va dans un phénomène qui est très réel, très scientifique, mais qui est peut-être difficile à saisir des fois par son ampleur ou par les effets que ça peut avoir. Étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas à côté de chez nous.
Ben oui, exactement. Écoute, je suis content. Je suis vraiment content. Moi, j'adore la science, Jason. Et parfois, il y a des choses qui m'irritent.
Oui.
C'est quand on entend toutes sortes de choses à gauche, à droite. Là, je me rongeais les ongles dernièrement, Jason, parce qu'il y a eu une tempête solaire
oui.
le 1er décembre.
Oui,
une
oui,
petite
oui.
tempête solaire.
Pas beaucoup d'impact,
j'entendais
en tout cas.
J'entendais des affaires, là. des gens qui disaient ben, ça vient du soleil, mais en fait, tu sais, bref, les gens disaient des choses, mais c'était pas vraiment spécifiquement, scientifiquement ça. Et d'ailleurs, je salue mon collègue qui en a parlé, qui en a vulgarisé un bout dans les nouvelles dernièrement, Alexandre Moranville, qui fait aussi un podcast. Mais bref, je suis en train de devenir fou parce que je lis beaucoup de trucs sur la science, puis à force de lire sur des trucs, je me suis rendu compte qu'une tempête solaire, c'est franchement bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors, ça rentre dans la thématique là, de notre podcast parce que comme phénomène, c'est vraiment extrêmement bizarre et c'est difficile à expliquer, mais on va y aller d'une manière humoristique. On va survoler le dossier aujourd'hui, on va s'amuser, puis à la fin, vous allez voir, on va tous être des experts et expertes en tempête solaire.
Alors, allons-y, on s'en va sur le soleil aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, là.
Ben oui, absolument. Fait que là, si le soleil veut aller dans un bar, Jason, qu'est-ce
Oui.
qu'il va faire? Il va te montrer sa carte d'identité.
Oui.
Donc, on va prendre la carte d'identité du soleil, on va l'analyser un peu. Alors, le soleil arrive dans un bar, on se dit, bon, t'as-tu 18 ans? Là, il te donne sa carte d'identité. On va s'amuser un peu.
Il y a quel âge le
Alors,
soleil? Est-ce qu'il a le droit de
le
rentrer dans le
soleil,
bar?
alors, il a 4,6 milliards d'années.
Ah, ben c'est correct. Je pense qu'il a le droit de rentrer.
Oui, absolument. Il est situé à environ là, 150 millions de kilomètres de la Terre.
D'accord.
Alors, sais-tu combien de temps que ça nous prendrait pour aller au soleil en voiture?
En voiture, mettons qu'on roule à une moyenne de 100 km/h, j'imagine.
Ah, ben, j'ai une moyenne ici, là, si tu roules à 300 km/h,
Oh, OK.
24 heures sur 24, combien de
Oui.
temps tu penses que ça prend?
Eh, boy, hey, ben, écoute, là, ça doit se compter en années.
57 ans.
Hey, boy, OK. C'est, ouais, OK.
Fait que tu prends une Ferrari, là, puis tu mets la pédale au fond, 300 km à l'heure, infinie essence, 24 heures sur 24, méchant road trip, 57 ans.
OK, je pense que je vais trouver une autre destination au soleil.
Trouve ça quand même comique. Et le temps que ça prend, on en a déjà parlé dans un épisode avant que la lumière du soleil se rende à la
Oui,
Terre.
ça c'est en minutes.
C'est ça, c'est 8 minutes.
8 minutes exactement.
Donc, 8 minutes. Donc, on regarde le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Donc,
Donc.
quand le soleil se couche, puis on voit son dernier croissant, comme dirait Hubert Reeves, R.I.P. Hubert Reeves.
Ben oui.
Il disait toujours, là, lorsque vous voyez son dernier croissant, il est déjà couché depuis 8 minutes.
Mais c'est vrai parce que la lumière voyage à une vitesse phénoménale, mais elle a quand même une limite de vitesse, qui veut dire que la lumière, c'est des particules, c'est des photons qui se déplacent. Donc, ça veut dire qu'à une très, très grande distance comme ça, la lumière nous montre le passé en réalité. Ce qui veut dire que si on était capable d'aller sur une planète qui est à une année-lumière de chez nous, puis qu'on avait un télescope assez puissant pour voir ce qui se passe là dans ma chambre actuellement, dans mon studio actuellement, on verrait il y a un an. Parce que la lumière a pris un an à se rendre à la planète où je suis. Et ça, c'est quand
C'est
même,
fou, ça.
c'est quelque chose qui fait saigner du nez, en fait. Quand tu y
Ben
penses comme fou, tu dis,
oui.
oui, mais comment je peux être là? Mais c'est ça. Donc, si je pouvais instantanément me téléporter, donc Spock, téléporte-moi sur une planète à un an d'ici, d'année-lumière, ben je verrais il y a un an sur la Terre. Je verrais les événements il y a un an. C'est quand même fou, là.
Exactement. Oui. C'est ça qui est même, tu sais, on parle souvent de fantômes là,
Oui.
dans l'univers parce que les étoiles, peut-être qu'elles n'existent même plus alors
Ouais.
qu'on les regarde. Là, moi, ça m'a toujours. Ça m'énerve, ça me gosse.
J'aime pas
Parce
ça,
que je suis
moi
comme,
non
mais non, elle est
plus.
belle, l'étoile. J'aimerais ça pouvoir l'identifier, savoir quelle planète qui est autour. Mais ben, non, ça se peut qu'elle n'existe même
Ben
plus.
non,
Ça
c'est
m'énerve.
à 1 million d'années-lumière. Ça veut dire qu'on voit sa lumière d'il y a 1 million d'années. Donc, ça fait peut-être 100 000 ans qu'elle est éteinte, l'étoile, puis on ne le sait pas encore.
Exact. Et à l'échelle plus rapprochée, si on comprend ce principe, dans le fond, Jason, ça veut dire que tout ce qu'on voit autour de nous, on ne le voit pas dans le présent.
Non,
Même
avec.
si ça prend un millième de seconde avant que la lumière se rende à ton œil, tu sais, par rapport, mettons, je regarde mon petit sapin devant moi, le sapin de Noël, mais je le regarde tel qu'il était il y a, bon, vraiment peu de temps,
Oui.
mais quand même, je ne regarde pas le sapin comme dans le présent, parce
Non.
que ça prend du temps avant que l'image se rende à mes yeux.
Et voilà.
Ce
C'est
qui est vraiment.
une petite fraction de seconde, là, vraiment là, très, très, très petite. Mais oui, La lumière doit quand même faire le parcours entre le sapin et ton œil.
Absolument. Alors, on poursuit la carte d'identité du soleil, Jason. Là, c'est un soleil qui est très chaud. Hein,
oui.
Mais c'est vraiment spécial, ça, parce que la température de surface, tu vois, c'est 5800 Kelvin, genre. Et ensuite, quand on s'éloigne du soleil, température dans la chromosphère, 10 000 Kelvin, et encore plus loin, là, c'est genre des millions de Kelvin. Donc, si on s'éloigne du soleil, il y a comme une... C'est genre hyper chaud quand tu t'approches du soleil. Après ça, plus t'es proche, là, ça se refroidit. Puis là, la surface est quand même froide. Puis là, à l'intérieur, le noyau, c'est des millions de degrés. Mais tu sais, il y a comme une transition étrange là, entre extrêmement bouillant, ensuite plus froid à sa surface et à l'intérieur, très, très bouillant aussi. Je trouvais ça assez bizarre, ce soleil. Et finalement, on arrive à la dernière affaire qui est justement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, le cycle d'activité magnétique, Jason.
Oui, parce que c'est ce qui peut avoir un impact sur nos vies en réalité. Là. C'est tout ce qui est magnétique qui se promène dans l'espace et qui, des fois, nous frappe de plein fouet. C'est ça qui peut avoir un impact sur nous. Là.
Absolument. Et dans le fond, c'est à chaque 11 ans, on fait une moyenne, là, à chaque 11 ans environ, il y a justement un pic de tempête solaire. Et ça revient comme ça, ça fait des vagues depuis là, depuis toujours en fait, depuis l'existence du Soleil. Et ça ressemble un peu, moi j'aimerais, je le vulgarise un peu, comme s'il respirait.
Mm-hmm.
Hein? C'est comme, il inspire, il expire, il inspire, il expire. Et quand il expire, eh bien, ça peut créer une tempête solaire qui, quand il expire, c'est pas automatiquement des tempêtes solaires, mais ça peut lui créer des picotements dans le nez et il peut éternuer, Jason!
Oh non!
Et quand il éternue le soleil, ben c'est là que ça crée une tempête solaire. Je trouvais l'image assez belle. T'sais.
Oui.
T'sais, tu respires, puis là, souple, t'es éternu, puis là, ben voilà, ça crée une tempête solaire gigantesque qui peut affecter la Terre. Et je trouvais ça particulier. Sais-tu comment on peut observer facilement les cycles solaires sur Terre, Jason?
J'ai aucune idée.
C'est dans quand on coupe un arbre. Là, il y a comme des...
Oui, les ronds là, qui nous permettent de calculer combien l'âge, combien de cycles de vie l'arbre a eu, là, combien de fois il a grandi, qu'il a dû refaire son écorce, etc., etc., etc. On voit l'âge de l'arbre, en fait, là, en coupant.
Oui, exact. Et quand on fait les études de carbone 14, on peut identifier le cycle solaire dans, justement, cette tranche d'arbre. Justement, on voit les cycles solaires dans un tronc coupé, là, où on voit justement les années de l'arbre, mais si on l'identifie au carbone 14, on peut observer le cycle solaire dans les arbres.
Ah ben! Fait que les arbres absorbent une certaine quantité de magnétisme, ou de il y a quelque chose qui fait que ça affecte un peu leur croissance?
En fait, c'est vraiment le carbone 14.
OK.
Donc, carbone 14, je l'avais tantôt, là, si j'ai dit carbone 14 sur Google, c'est la radioactivité, la datation.
Ah, voilà.
Donc, radiocarbone, donc...
Oui, je me souviens, le principe de datation par carbone 14, je me souviens. Donc, on est capable de détecter des hausses à certains moments dans la durée de vie de l'arbre où il y a eu des hausses de radioactivité ou des hausses d'activité de certains à certains moments précis dans la vie de l'arbre.
Exactement. Donc, c'est vraiment là, on parle, cette fois, le carbone 14, noté 14C, c'est l'isotope du carbone, blablabla, blablabla. Bon, on peut le démarquer aussi par la radioactivité. Alors, c'est un peu l'énergie de liaison nucléaire.
OK. Mais l'arbre enregistre ces hausses-là. Ça veut dire que ça affecte l'arbre d'une manière qui fait qu'il y a des points précis où il y a une hausse d'activité radioactive qui fait que c'est détectable au carbone 14.
Voilà.
C'est fou pareil, hein? Qui aurait cru qu'en coupant un arbre, on serait capable de détecter les moments où il y a eu des cycles solaires?
Ben oui, absolument. C'est fascinant. Comme dirait Charles Tissard dans Découverte.
C'est fascinant.
Et ça, c'est vraiment le cycle solaire. Donc, à chaque 11 ans. Sais-tu quand qui est prévu, Jason, le pic du prochain cycle solaire?
Eh mon Dieu! Hey, écoute, faudrait que je me souvienne de l'année où on en a eu une qui a vraiment eu un impact sur la Terre.
Ouais.
Je me souviens pas de l'année, mais c'était dans les années 80, si je ne me trompe pas, ou début 90. Mais là, on est rendu en 2023. Fait que je perds le compte un peu. Je sais qu'il y en a eu une lundi, mais c'était une toute petite. Donc, est-ce que ça fait partie là, du pic? Je ne penserais pas. On ne doit pas être dedans encore. Là.
Ben, le prochain pic, justement, là, la fin donc, du cycle solaire actuel, puis après ça, on va retomber dans un 11 ans tranquillos.
Ouais.
Donc, le pic, la fin, c'est supposé être là.
Ah, OK.
Fin 2023, début 2024.
OK, fait qu'on est dedans.
On est dedans. Peut-être même l'été 2025, jusqu'à l'été 2025, on pourrait avoir plus de tempêtes solaires.
OK.
D'ailleurs, il y en a eu une le 1er décembre
dernier. Oui, bien, c'est ça, c'est ce que tu disais. Il y en a eu une, mais les tempêtes solaires, on en parle des fois dans les médias, des fois, on n'en parle pas. Mais s'il n'y a pas vraiment d'impact sur notre quotidien, sur notre vie, s'il n'y a pas de panne, s'il n'y a pas de bris, s'il n'y a pas de dérèglement de quoi que ce soit, on s'en rend pas compte. On n'en parle pas, on s'en fait pas avec ça. C'est quand ça arrive, puis que là, il y a un impact. Soudain, on dirait qu'on devient comme on a peur. Là, on regarde le soleil et on dit il va-tu arriver quelque chose? Il va-tu se faire de quoi? Il va-tu.
Ben oui.
Mais s'il arrive à rien, c'est comme c'est pas grave. On s'en rend même pas compte, en fait.
Exactement. On peut ne pas s'en rendre compte du tout. Et c'est drôle parce que quand j'ai vu Tempête solaire le 1er décembre, les articles que je voyais, c'était souvent Tempête solaire. Fin du monde, la fin des temps, les Mayas ont prévu. Puis là, on fait toutes sortes d'amalgames étranges là, avec tempête solaire, les Mayas ont prévu la fin du monde, c'était prévu en 2012, mais là, finalement, ça va être le 1er décembre ou lors du pic de la fin du cycle solaire en 2025.
Il y avait un décompte, hein, le fameux principe de théorie de complot, le fameux QAnon aux États-Unis. Il y a plein de monde qui ont repris, là, parce que l'original, le blogueur qui se faisait passer là, pour une personne qui était près du président à l'époque de Trump, qui s'appelait QAnon, oui, a arrêté à un moment donné. On s'est rendu compte que c'était deux petits Joe qui s'amusaient à manipuler les gens, mais ça a été loin. Là, je veux dire, ça a été. Il y a probablement eu des décès liés à ce phénomène QAnon-là. Il y a eu la fameuse pizzeria où il s'était supposé d'avoir un sous-sol qui faisait du trafic humain. Puis il y a des gens qui ont vraiment voulu aller à la pizzeria assassiner tout le monde. Là. C'est allé loin. Et il y avait un décompte. Je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les médias sociaux. Il y avait un gros cul avec un décompte en dessous, puis personne ne savait ce que c'était. C'était le décompte pour lundi avec la tempête solaire. Fait que personne s'en est rendu compte. Tout le monde cherchait c'était quoi l'événement. Puis comme il ne s'est rien passé, bien, ils n'ont comme pas fait de suivi. Fait qu'ils n'ont pas dit ce que c'était supposé d'être. Fait que les gens ne savent pas exactement ce que c'était. Moi, ma conclusion, c'est que c'était le décompte pour la tempête solaire parce que ça arrive à peu près juste. Là. Fait que je pense que c'était ça. Mais ça continue. Là. Les gens aiment ça faire peur aux autres, aiment ça. Puis une tempête solaire, ben c'est un phénomène qu'on connaît pas bien. Donc, ça donne l'impression que le soleil va cracher du feu jusque sur la Terre et va détruire la Terre en 2 secondes.
Ouais, c'est ça, une éruption solaire, quand tu sais, pour les gens qui sont non curieux de science, qui vont pas vraiment fouiller spontanément sur des trucs scientifiques, qui n'ont jamais entendu parler de ça, éruption solaire, ça sonne comme tu dis, crache du feu. Écoute. On va tous mourir.
Ah.
Fait que si tu vois passer ça, le lien se fait assez rapidement. Tu vois, éruption solaire et fin du monde tout de suite. Tu te dis, oh mon Dieu, une vague solaire va nous détruire.
Mais notre imagination est très fertile hein, pour ce genre de choses-là. Surtout si on ne comprend pas le phénomène, notre imagination va nous amener des images des fois absolument épouvantables. Puis on va avoir, puis là, avec les médias sociaux, avec la tendance à désinformer les gens sur les médias sociaux, il y en a qui capitalisent là-dessus parce qu'ils savent très bien que les gens ne connaissent pas le phénomène. Donc, en disant « Tempête solaire! Oh, le feu va venir jusqu'à la Terre cette fois-ci! » Bien, les gens qui ne connaissent pas le phénomène et qui n'ont pas tendance à aller challenger les informations qu'ils voient sur Internet, je vais dire ça comme ça, vont prendre ça pour du cash puis vont dire « Ah, mon Dieu, tempête solaire! » Ça y est, c'est fini. Tout aussi bien de sortir mes REER puis en profiter en fin de semaine. Lundi, c'est fini. Puis malheureusement, il y a des gens qui vont mordre puis qui ne sont pas nécessairement habiles à aller chercher une contre-information, à aller vérifier une information sur Internet. Puis malheureusement, les gens qui désinforment en profitent grandement de ça et vont peut-être demander des dons au travers pour dire si vous voulez que je continue mon bon travail, envoyez-moi de l'argent.
Exactement. Alors, t'as tout à fait raison. C'est une bonne manière de le montrer, de l'imager. Ça fait. C'est un peu l'humanité crédule un peu lors de ces situations. Mais moi aussi, je me suis fait avoir, je vais être honnête, là, par des histoires de fin du monde.
Ben
Quand j'étais
oui,
jeune,
ben oui.
2012, puis les Mayas, là, je vais être honnête, j'étais dans ma jeune vingtaine. Je trouvais un peu, t'sais, parce que je sais que les Mayas ont vraiment créé des. T'sais, ils étaient quand même avancés pour leur civilisation et je trouvais ça franchement curieux et je me faisais des peurs. Je me
Ah ben
souviens,
oui.
le 21 décembre 2012, et justement, le film 2012, Jason.
Oui.
C'est ça, on disait au début du film, une éruption solaire a fait quoi? Bouillir l'intérieur de
Ouais.
la Terre. Et là, ben, ça fait un déplacement de l'écorce terrestre parce que l'intérieur de la Terre bouillonne à cause de cette éruption-là.
Ouais.
Comme si l'impact de cette énergie du soleil pouvait faire augmenter la température interne de la Terre, ce qui est complètement faux.
Absolument. Donc là, la nappe phréatique bouillait, ça créait de la vapeur qui créait une pression souterraine et qui faisait que on avait tous les phénomènes là, de catastrophe qu'on voit dans le film là, avec le chauffeur de limousine qui chauffe comme un pilote de Formule 1. Mais c'est comme ça que le film commence. Hein. Je pense que c'est en Inde ou je ne sais plus trop dans quel pays. Puis il y a un scientifique, il y a une espèce de tuyau qui descend dans la terre. Puis là, il rouvre le tuyau. Puis là, il capote, puis il crie. Puis là, ça commence. Puis là, tout se met à se détruire partout. Mais c'est vraiment ça. C'est à partir l'élément déclencheur de ce film-là, c'est une tempête solaire.
Exactement, exactement. Alors, je trouve ça quand même assez comique. Et je dois l'avouer, mon fan de cinéphile, là, si je suis cinéphile, je suis un fan de fin du monde et de films hollywoodiens. Et
Ben,
je les ai vus souvent. Et le 2012, je l'ai vu souvent et j'aime encore ça. Je vais être
moi,
honnête.
j'aime mieux les films post-fin du monde. Tu sais, les
Ah
films où
oui.
on voit le après, le pendant, la fin du monde, on la voit pas du tout. Le personnage se réveille, puis là, il sort de sa maison, puis c'est un désert, mais il est en plein New
Ouais.
York, là, puis là, tu vois des
Ouais,
ruines, puis ça, j'aime ça. Mais les films qui montrent la fin du monde, j'accroche, moi, je l'ai regardé de 2012 plus qu'une fois, mais j'aime mieux le après, moi. J'aime mieux
ouais. Ouais, ouais, ouais,
les jeux Fallout, là, puis tout ça, le après,
ouais.
là, tu sais pas ce qui est arrivé réellement. Bon, Fallout, on le sait, là, c'est une guerre nucléaire, mais c'est minime, là. C'est l'intro du jeu, puis après ça, whoop, on est après la fin du monde. Ça, je trippe plus. Mais des films de fin du monde, écoute, c'est un style cinématographique qui existe depuis longtemps, puis on va en avoir d'autres.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un parenthèse, Jason, je suis sûr que tu vas aimer mon ami Jani, que je salue, Jay, il joue à un jeu vidéo, puis après, il m'a partagé un truc sur la Facebook, je trouvais ça franchement comique. Il m'a dit, tu sais quoi, l'objet qui va être le plus important après la fin du monde pour les humains, selon toi, tu sais, qui va être le plus utile?
Connaissant la tendance à l'humain à être dépendant, ça doit être quelque chose qu'on consomme puis que notre corps demande, genre de l'alcool, de la cigarette, des drogues, des choses comme ça. Je sais pas, je sais pas. Moi, je
Ben,
m'en vais vers ça.
il pouvait, c'était quand même bien pensé. Il disait, en fait, dans le jeu vidéo, un panier d'épicerie, les
Ah,
paniers d'épicerie.
oui.
Parce que ça va être le t'sais, les voitures marchent plus, il n'y a plus
Non, non,
rien.
non,
Puis
c'est
qu'est-ce
ça.
qu'on va juste, ça risque d'être notre meilleur ami en cas de fin du monde, parce que c'est là qu'on va transporter notre couverte, notre eau, le peu de nourriture qu'on trouve. Donc, à ce qui paraît, l'image parfaite d'après fin du monde, c'est un humain avec un panier d'épicerie
C'est pas
qui
fou.
se promène.
C'est pas fou, pantoute. C'est vrai. Parce que si tu veux transporter du stock pour ta survie, ça te prend quelque chose pour le traîner.
Exact, exact.
C'est bien cool.
Alors, on poursuit avec la tempête
Oui,
solaire, Jason.
tempête solaire. Donc, est-ce qu'on a raison d'avoir peur, Tristan, des
Ben,
tempêtes
un
solaires?
petit peu quand
Oh!
même. C'est ça qui est quand même intéressant. Là, c'est pas banal. C'est pas
OK.
banal. Un petit signe, tu vois, on va se diriger en ce moment, là, comment on peut détecter, savoir qu'il va y avoir une tempête solaire bientôt, une grosse. Une moyenne, c'est le nombre de taches noires à la surface du Soleil.
Oui, ça, je me souviens d'avoir lu ça quelque part. Donc, on est capable de regarder, ben, en fait, d'observer la surface du Soleil et les taches noires nous montrent qu'il va se passer quelque chose. Plus il y en a, on sait qu'il y a un événement qui s'en vient.
Absolument. Donc, s'il y a de plus en plus de taches noires, c'est là qu'on peut dire, voilà, là, il y a une éruption solaire qui se prépare. Et le prochain pic, comme je le disais, là, de la fin du cycle solaire actuel, c'est de fin 2023 à l'été 2025, et on dit que ça pourrait être vraiment 2024 jusqu'à l'été 2025 qu'on aurait beaucoup plus de chances de voir des tempêtes solaires majeures. Et actuellement, Jason, c'est ça qui est quand même un peu inquiétant, c'est que, un peu, là, tu sais, c'est qu'on prévoyait que ça n'allait pas être un si gros, une fin de cycle si extraordinaire que ça. Parce que quand on est autour de 110, 115 taches noires, Eh bien, on est dans la normalité d'un
Un
la
cycle
fin d'un cycle
ordinaire,
solaire. Donc,
ouais.
des petites tempêtes par-ci par-là, mais rien de grave. Et là, la NASA a refait, je suis allé voir les articles de la NASA, et on a refait une publication il n'y a pas si longtemps, et on voit que le nombre de taches noires est à la hausse, en fait.
Oh, OK.
Alors, on prévoit que finalement, il pourrait avoir jusqu'à 130, 135 taches noires
Oh.
d'ici la fin du cycle scolaire, ce qui est
OK.
majeur, en fait.
OK.
Donc, c'est vraiment, on dit que s'il y en a 130, là, on risque d'avoir une bonne quantité de grosses tempêtes solaires qui pourraient effectivement affecter la Terre.
OK.
Alors, d'ici, là, c'est ce qu'on dit, là. T'sais, les articles ont changé parce que j'allais voir des articles de l'année passée et on disait, bon, fin de cycle solaire normal. Puis là, finalement, c'est récent, là. On vient de voir que, hop, finalement, il y en a plus, là. Il y a plus de points, de taches noires sur la surface du Soleil. Donc, voilà, on est de plus en plus. Puis là, il y a plein d'articles qui disent fin du cycle solaire, fin du monde. Là, ben, on en a parlé. C'est vraiment, les gens s'amusent, les internautes, avec ça. Mais quand même, ça risque d'être un cycle solaire majeur pour 2024 et 2025.
OK. Là, avant là, de que les gens paniquent, entre parenthèses, là, l'impact d'une tempête solaire majeure, c'est pas qu'on va pogner en feu dans la rue ou que le feu va se rendre jusqu'à la Terre ou que l'intérieur de la Terre va bouillir puis qu'on va avoir des tremblements de terre mondiaux. C'est pas ça l'impact, par exemple. C'est plus une fois que la tempête solaire elle commence, c'est que ça émet aussi des choses qui sont pas du feu, puis c'est pas de la chaleur, puis c'est pas des morceaux de lave, puis des météorites en feu qui vont nous tomber sur la tête. C'est pas ça qui se rend jusqu'à la Terre. C'est quoi qui se rend jusqu'à la Terre d'une tempête solaire? C'est justement ce qui peut avoir un impact, puis ce qui peut dérégler nos choses ici.
Ben, tu vois, maintenant qu'on a mis la table, hein, que les ustensiles sont sur la table et tout, que tout est prêt, je pense qu'on pourrait s'amuser, Jason. En fait, je te dirais, une mini-pause.
OK.
Après ça, on revient avec qu'est-ce que ça peut nous faire, une
Ben oui.
tempête solaire, et petit retour sur la tempête majeure qu'on a eue au Québec en 89, et quels
89,
sont les
ah!
impacts.
Hey, j'étais pas loin, je disais 80, début 90, là, j'étais pas mal dedans.
Oui, absolument. Donc,
Fait qu'à
je vous propose ça, puis après
89,
ça, qu'est-ce que ça va nous faire là, sur
les
la Terre?
anciens comme moi, vous vous en souvenez, je suis certain. Si vous en souvenez pas, vous allez vous en souvenir quand on va en parler. Alors, on prend une petite
Absolument.
pause. Petite
Oui.
pause. Petite pause.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
C'est toujours sur les ondes de Mauve FM, la radio favorite des ascenseurs. Simon Didier Étienne Philippe avec vous encore pour une heure. Et là, nous allons à un nouveau segment qui est présenté pour les plantes, par une plante. Et on rejoint immédiatement Manon Plante. Ça va bien, Manon?
C'est parce qu'à cause, je viens de comprendre là, le jeu de mots avec mon nom. C'est très drôle. Je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup.
Ah, bien sûr. Donc, de quelle plante allons-nous parler aujourd'hui et surtout, à quelle plante allons-nous nous adresser?
Alors aujourd'hui, j'ai choisi le rhododendron.
Ah, le rhododendron. Mais quelle plante magnifique, incroyable, majestueuse, qui transcende les émotions que nous vivons lorsque nous posons nos yeux sur elle. Alors Manon, explique-nous. Quel est le cheminement qui t'a amené à choisir ce matin le rhododendron pour ta première chronique?
Ah ben, hier soir, je me disais, je suis mieux de me préparer un petit peu pour ma chronique. Hein. On ne peut pas toujours tout improviser. Alors, j'ai ouvert un grand livre de culture, des fleurs, et je l'ai feuilleté. Et je me suis un petit peu endormie. Et après ça, quand je me suis réveillée, il y avait un petit peu de bave sur le livre. Alors, je l'ai essuyé. Et là, ça m'a frappé. J'étais sur la page du rhododendron. Et quand j'ai lu le nom, je me suis dit, eh ben, il y a 3D dans le nom de cette plante, rhododendron. Et là, quand je l'ai prononcé, j'ai trouvé que ça roulait dans la bouche. C'était agréable à dire.
Bien sûr, mais il ne faut pas oublier les mauves éclatants, les rouges qui rappellent cette vie qui coule en nos veines de manière éphémère et qui un jour cessera de bouger et fera des gros motons, un peu comme du boudin. Et bien sûr, les roses du rhododendron, qui rappellent le romantisme, l'amour de l'époque victorienne et ces corsages qui semblait vouloir faire exploser les poitrines des femmes en voyant des petits morceaux un petit peu partout.
Je ne saurais dire, parce qu'il y avait juste une photo dans mon livre, là. Il était mauve. Hein? Mais n'oubliez pas Simon avec plein de noms. Rhododendron. Ça roule dans le rhododendron. Il y a 3D. C'est très rare pour une plante d'avoir 3D dans son nom. C'est exceptionnel.
Alors c'est tout le temps qu'on avait pour cette toute première chronique qui s'adressait à vos plantes. La semaine prochaine, le géranium.
Merci. Au revoir. Et bien sûr, bonne journée à tous les rhododendrons. Rhododendrons. Rhododendrons.
Et nous sommes de retour. On parle du soleil aujourd'hui.
Ben oui,
notre ami le soleil.
Le soleil!
Soleil qui est là et qui est source de vie, Tristan.
Oui.
Le soleil est là, s'il n'est pas là, on n'est pas là.
Absolument. Hey. D'ailleurs, on parlait de son âge, là, oui. Au début, 4,8 là, 4,8 milliards d'années.
C'est fou, hein?
J'ai vu, on dit là, que son espérance de vie, Jason, c'est 10 milliards d'années environ. Donc, on est...
On fait qu'on n'a même pas à moitié de fête.
Ben voilà.
Hein, c'est bon, ça. Moi, je vois ça positif. Moi, le verre, il est toujours à moitié plein. Il n'est jamais à moitié vide avec moi.
Exact.
Sauf les vendredis quand je suis de mauvaise humeur, mais là, c'est pas pareil, ça. Tristan, tu savais que, puis ça, je fais une parenthèse juste pour le fun là, de s'informer puis de savoir, la Terre est dans une zone, une petite bande, hein, son orbite autour du Soleil est dans une toute petite zone qui est propice à la vie. Si on était un peu décalé, pas de vie sur la Terre. Si on était un petit peu plus proche du Soleil, pas de vie sur la Terre. Un peu plus loin, pas de vie sur la Terre. Et ils appellent ça la zone, le Goldilocks zone, donc la zone boucle d'or. Boucle d'or. Tu sais, boucle d'or, elle cherche le gruau qui est à la bonne température, elle cherche le lit qui est à la bonne grandeur, la bonne dureté. Fait qu'ils ont appelé ça la zone parfaite, la zone boucle d'or. C'est le fun, je trouve ça cute. Je trouve ça beau.
Ben oui, c'est cute, c'est parfait parce que c'est exactement là que je m'en allais. Je
ben tabarouette. Fait que quand on cherche la vie ailleurs, on commence par chercher autour d'un soleil, un autre soleil que le nôtre, est-ce qu'il y a une zone Goldilocks et est-ce qu'il y a une planète qui orbite dans cette zone-là? Puis là, déjà en partant, ça augmente les chances de trouver de la vie ailleurs. Fait que c'est un peu une technique pour chercher la vie ailleurs dans l'univers, c'est de voir est-ce qu'il y a des planètes dans cette fameuse zone parfaite, comme nous.
Oui, la zone habitable.
Et voilà.
Et c'est intéressant que tu amènes ce point parce que même on pourrait même dire que c'est ça frôle le miracle.
Ah, absolument. Concours de circonstances absolument incroyable qui fait qu'on est là aujourd'hui.
Absolument. Et ça prend un autre ingrédient, Jason, pour qu'on puisse habiter sur une planète, hein, parce que même si on est à bonne distance, une distance parfaite d'une étoile dans la zone habitable, ça prend un autre ingrédient.
Ça prend d'aussi bizarre.
Oui, absolument. Ça prend aussi bizarre, mais ça prend aussi, écoute, ce qui va protéger les êtres vivants sur la planète des fameuses radiations solaires.
Un bouclier.
Ça prend un bouclier magnétique.
Absolument. Et ça, on l'a. On en a un parce que sinon, on ne serait probablement pas capable d'être en train d'enregistrer actuellement. Mettons que la vie serait possible pareil. Mettons, on n'aurait probablement pas d'appareil électronique fonctionnel, par exemple, si on n'avait pas ce bouclier-là.
Non, et c'est ça, c'est quand même fou parce que tu sais, la Terre a tous les ingrédients, ce qui frôle le miracle. On a un noyau de fer là, au centre qui fait un gros bouclier magnétique, un champ magnétique. Et comme sans ce champ magnétique-là, Jason, on subirait les impacts des radiations, des tempêtes solaires et ça ne serait pas jojo.
Non, ça ne serait pas. Là, en fait, on ne serait pas là.
Exact. Mais on est protégé. C'est quand même fou. La Terre a vraiment tout, là, tous les ingrédients. C'est vraiment notre vaisseau spatial qui nous protège de tout, y compris des tempêtes solaires.
Oui.
Alors, mais il y a quand même, on va en parler, il y a des impacts quand même.
Écoute, on t'a parlé de 1989 tout à l'heure. Écoute, j'ai 48 ans. Là. Ça veut dire qu'en 89, j'avais 14 ans. En 89, mon Dieu Seigneur. J'avais 14 ans, donc ça fait quand même longtemps. Là. Ça fait 34 ans. Je m'en souviens encore, Tristan. Ça avait été catastrophique, mais ça avait été extrêmement épeurant aussi parce que on ne savait pas. Hein, on ne savait pas pourquoi ça avait fait ça. Puis on ne savait pas si c'était quelque chose qui allait revenir à répétition. Là, on avait peur que ça arrive tout le temps. On avait peur de ne pas être prêt à faire face à cette situation-là. Et c'était un peu comme 2012. C'était une tempête solaire qui avait provoqué un effet domino sur un paquet d'affaires, mais ici sur la Terre.
Ben oui, exactement. Et c'est quoi qui avait frappé la Terre, Jason? C'est quoi qui quand on dit que le soleil est éternu, comme je le disais au début, hein, puis que ça nous envoie, là, on dit, ah, les gens adeptes de fin du monde vont dire, ça va être du feu, de la lave, ça va faire bouillir la Terre, tout va exploser. Mais en fait, c'est quoi? C'est fou. Moi, ça me fait capoter, cette matière étrange, là. Il y a des scientifiques, on va se le dire, qui étudient la vie complète, cette étrange matière. On parle de plasma, un état plasma. Tu sais qu'on voit les genres de tentacules là, du soleil.
Oui,
là,
oui,
du...
oui, oui.
Cette matière-là, c'est du plasma. Et là, on voit, là, dans le fond, du plasma, c'est quand les températures sont tellement élevées que les électrons sont arrachés de l'atome. Alors, on parle d'une sorte de soupe d'électrons actifs. On peut appeler ça, là, ou bien des ions. Là. Bon, là, je ne suis pas un chimiste ni un physicien.
Mais ça fait une espèce de soupe où la composition se défait tranquillement, pas vite. Puis il y a certaines de ces atomes ou certaines de ces choses-là qui sont projetées.
Exactement, exactement. C'est une énergie bouillonnante, électromagnétique, qui peut créer des champs électriques. Et pour vous donner une idée, Jason, une image parfaite de c'est quoi cette matière-là, ce qui ressemble le plus à ces plasmas sur Terre, on dit que ça peut être là une flamme de très, très haute température ou, encore là, la foudre.
Ah oui, 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 oui.
Donc imaginez la foudre, la matière de la foudre, le poing de la foudre, essaie de la pogner, là, là dans un tube, essaie de toucher la foudre. Imagine comment ça doit être bizarre, là, ouais. C'est de la matière qui est tellement bouillonnante que ça détache les électrons de l'atome, ça crée justement ces particules électriques chargées d'énergie.
Ben, Tristan, alors, l'odeur de la foudre, as-tu déjà eu un éclair qui est tombé quand même relativement proche? Je ne parle pas à deux pieds, là, mais tu sais, je veux dire, dans le quartier où tu es, un éclair tombe sur un transformateur là, au bord de la rue, l'odeur, ça sent. Tu sens, tu sais, quand on dit ça sent l'orage, ben oui, ça sent l'orage parce que l'éclair va justement détacher des choses, va décomposer des choses, puis on va sentir, et ça sent, on va dire, ça sent l'ozone ou ça sent, mais il y a une odeur attachée à ça, puis je le sais, là, je suis pas fou, là, je le sais, puis il y a plein de gens qui le disent, ça sent l'orage. Quand ça sent l'orage, c'est ça, il y a eu des éclairs, puis ça, il y a une odeur attachée à ça. C'est bizarre, mais il y a une odeur. Mais pourquoi cette odeur-là existe? C'est parce que l'éclair a modifié la structure de l'air ambiant quand elle a frappé. Et c'est ça qu'on sent. C'est fou, là.
C'est extrêmement puissant comme matière, là. C'est incroyable. Et quand ça approche de la Terre, tu sais, notre bouclier magnétique, imagine toute cette énergie-là, ben, elle frappe de plein fouet le bouclier magnétique.
Oui.
Et c'est là que ça crée des aurores boréales.
Oui. Donc lundi, il y en a eu, puis il y en a eu des photos sur les médias sociaux, magnifiques d'aurores boréales. C'était incroyable. Mais oui, ça prend ça pour faire une aurore boréale.
Absolument, absolument. Donc, c'est là, imaginez, là, quand tu vois des aurores boréales, en fait, c'est l'impact de cette énergie qui
entre. C'est le bouclier qui nous défend. On voit le bouclier nous défendre pendant les aurores boréales.
Exact. On pourrait voir ça comme un fight, un combat. Oui. Entre le soleil et la Terre.
Ben oui, c'est comme dans Star Trek, là, quand il dit de mettre les moteurs à 10, puis là, t'as l'autre qui appelle, « Oh, je ne peux pas les pousser plus loin! » Puis là, ben là, le bouclier va lâcher! Ah! Là, il capote, puis là, tout, ça tient. Ben, c'est exactement ça, pareil. Le soleil nous bombarde, et la Terre se protège avec son bouclier.
Exactement, exactement, exactement. Là, je vois un spartiate là, qui est spartiate. Ben, c'est exactement ça. Donc, on pourrait lui dire merci. À chaque fois qu'on voit des aurores boréales, on pourrait dire merci la Terre de nous protéger.
Absolument.
Mais quand même, c'est quand même, quand on parlait de l'énergie, elle est tellement puissante, hein, les ions ionisés, cette charge électrique, magnétique. Ben, il y a de la matière, de cette matière-là qui passe quand même.
Oui, ben c'est ça. Le bouclier n'est pas complètement imperméable. Ça arrive des fois que ça va passer si vraiment il y a une grande quantité qui frappe. Il y en a qui passent au travers. Et les humains qui ont développé la Terre et la technologie qu'on a sur la Terre, on n'était pas nécessairement tout à fait prêts à faire face à une tempête majeure. Puis on l'a vu en 89, on a eu un impact là, vraiment sur nous, là, sur notre vie. On n'a pas un bras qui nous a poussé en arrière de la tête, là, mais il y a eu un impact sur le matériel, par exemple. Là. Puis on a bien pu mesurer que, oh boy, OK, ça nous frappe vraiment très fort des fois.
Exactement. C'est, tu l'as vécu, imagine, on est en mars 1989 au Québec, 6 millions d'habitants, et panne généralisée dans tout le Québec.
Tout le Québec, et il y avait l'État, de, pas l'État, mais je veux dire, la côte est américaine aussi, qui avait eu un impact. Il y avait eu une panne aussi du côté de la côte est américaine. C'était gigantesque. Les images d'habituellement qu'on voit là, que New York est illuminé là, à perte de vue, puis Montréal est illuminé à perte de vue, puis c'était des points noirs sur la Terre. C'était vraiment impressionnant. Là. C'était vraiment quelque chose. La noirceur totale et complète. Il n'y a plus rien qui fonctionne au Québec et dans certaines villes américaines.
Exactement. Donc, tu vois, c'est fou. Je ne l'ai pas vécu, mais ça, je trouve ça captivant. Toi, tu l'as vécu, oui. Jason. C'était le 10 mars.
Oui.
Et on dit là, que c'était un jet de matière provenant du soleil qui était 36 fois grand comme la Terre. Qui a frappé la planète Terre. Imagine une éruption solaire majeure.
C'était
donc
gigantesque.
Et ça a pris quelques heures avant qu'on se rende compte. Au début, on était comme, bon, c'est quoi? Jusqu'à ce que la NASA comprenne et le dise à tout le monde. Ouais. Hey, on s'est fait frapper par une éruption solaire. Et c'est là que les gens d'Hydro-Québec, les responsables de l'hydroélectricité du Québec, ont remarqué que le système central avait sauté complètement à cause de cette énergie qui avait fait surchauffer là, les générateurs. Puis encore une fois, je ne suis pas électricien, mais en gros, on peut décrire ça comme une surchauffe d'énergie. Ça avait comme boosté l'énergie tellement que ça avait fait sauter le système central qui distribuait l'électricité à tout le Québec. Alors, ça a pris là, une journée complète, 12 heures, Jason, dans le noir. Imagine le Québec complet.
C'est, je pense, la plus grosse panne que j'ai vue. J'en ai vu des pannes, j'ai vécu le verglas aussi. Le verglas avec le fameux triangle noir, là, Drummondville, puis différents secteurs comme ça qui étaient complètement dans le noir pendant des semaines et des semaines. Mais une panne où on peut dire tout le monde manque de courant en même temps, c'est la première fois et la seule fois que j'ai vu ça. C'était énorme. Et après ça, quand tu as 14 ans, ton imagination commence à faire. Puis tu dis, OK, mais la prochaine fois, ça va être quoi? La prochaine fois, ça va être quoi? Puis il y a eu une espèce de crainte pendant, je te dirais, quelques années. On regardait le soleil avec un drôle d'air. Là. On le regardait, on disait, t'es mon ami, mais des fois, peut-être pas, finalement. Mais on a comme. C'est comme si on s'était réveillé. C'est comme si on s'était réveillé que, waouh, c'est le soleil peut aussi, des fois, nous atteindre de cette manière-là. Mais avant ça, on n'avait jamais entendu parler de ça, Tristan. Là. Jamais, jamais, jamais. Ça n'avait jamais été un sujet de conversation. En tout cas, dans mon coin, à moi, on n'avait jamais parlé de ça. Et là, après, on parlait que de ça. Et on en parle encore. Hein. Je veux dire, tu vas voir, là, mettons, là, on arrive dans une période où il pourrait y avoir des tempêtes solaires majeures. La nation en annonce une, mettons, le 22 février. Je te garantis que les gens qui ont plus de 40 ans vont tous parler de 1989, de mars 89. Ils vont tous faire référence à ça. Ils vont comparer la taille de la tempête à celle de 89. Ils vont parler de l'impact en aujourd'hui versus 89. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 89 pour se préparer à ça puis éviter que ça arrive encore? C'est la référence. Le 10 mars 1989 est la référence mondiale pour une tempête solaire.
Ah, ben voilà. Tu vois, là, je veux pas faire peur aux gens, Jason, mais on va parler de l'impact, un peu comme les battements d'ailes d'un papillon, là, comme tu disais, à l'autre bout de la Terre, qui crée un impact ailleurs.
L'effet papillon.
Oui, exactement. Il y a des adeptes du monde qui disent qu'en fait, tu vois, cet événement-là au Québec en 89, ça avait, je l'ai, là, c'est 9 heures, ça avait coûté des millions de dollars.
Ouais.
Les pertes économiques, là, se chiffrent à l'époque à plusieurs millions de dollars. Et là, on dit que Jason, on parle de panne d'électricité. Mais ça peut aussi affecter les boussoles, les GPS, les ondes cellulaires, les satellites.
Ah, absolument.
Alors, tout ça peut être affecté.
Imagine,
par cette...
il y a une méga tempête solaire et tous les satellites deviennent non fonctionnels demain matin. On n'a plus d'Internet, on n'a plus de cellulaire, on n'a plus de GPS, on n'a plus de télé, on n'a plus de radio. Ben, la radio, non, on est correct avec la radio. Mais il y a un paquet d'affaires qu'on prend pour acquis. Qu'on utilise le matin encore, on n'est même pas réveillé encore, qu'on a déjà utilisé certaines de ces technologies-là, et on les a plus, là. Et là, si c'est tous les satellites qui grillent en même temps, c'est des années avant de récupérer tout ça, là. C'est pas quelques heures, là. C'est très long avant qu'on récupère tout ça.
Ouais, tout à fait. C'est incroyable. Donc, c'est là qu'on peut se dire, franchement, sans exagérer, que ça pourrait créer des impacts significatifs, voire...
chaos social incroyable, Tristan.
Oui.
Imagine plus d'Internet là, à grandeur de la planète demain matin. Imagine l'impact social. Il y en a qui ne vivent que de ça. Et c'est beaucoup de gens maintenant qui sont totalement isolés, qui s'isolent, qui sont solitaires et que leur seule manière de communiquer avec le monde, d'avoir des nouvelles du monde, c'est par Internet, par la télé. Tu les enlèves ça demain matin puis tu leur dis oh, peut-être prendre un an ou deux là, avant que tu l'ailles encore. Les premières semaines, ça va peut-être aller, mais tranquillement, on va sentir qu'il y a une espèce de chaos qui s'installe. Ça serait quelque chose. J'ai pas dit ça va être parce que je pense pas que ça arrive à cette ampleur-là, mais ça serait quelque chose.
Non, exactement. Et il y a un côté, par contre, c'est ça qu'ils disent, les scientifiques disent, c'est un peu comme avoir les chances qu'un astéroïde frappe la Terre d'ici des milliers d'années. C'est imprévisible.
Aye.
Alors, on n'a aucune idée. C'est un peu comme l'automax, là, tu bêtes, tu t'en vas jouer pour avoir la chance de gagner sur une chance sur des millions. Ben, c'est un peu ça. C'est imprévisible. On ne sait pas. Il pourrait avoir une tempête solaire quatre fois plus grosse que celle qu'on a eue en 89, qui crée ce chaos sur Terre. Mais les chances sont minimes.
C'est très, très faible. Et depuis 89, on a quand même développé des outils, des boucles de sécurité, des manières de faire en sorte que si ça arrive, l'impact sera amoindri. Mais encore là, est-ce que les mécanismes qu'on a mis en place sont suffisants pour prévenir une tempête gigantesque qui serait encore plus grosse que celle de 89? C'est comme ça. Je veux dire, à un moment donné, on a beau faire de notre bord ce qu'on peut, on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que peut-être que jusqu'en 2025, il va y avoir plein de tempêtes solaires, mais des petites, mais il va en avoir beaucoup, peut-être. Puis finalement, il n'y aura rien. Il va peut-être en avoir une gigantesque, puis on va manquer de courant. On ne le sait pas. Personne ne le sait. Mais on travaille fort comme humain à se protéger, à se préserver. C'est l'instinct de survie, c'est normal. Et l'humain se protège et essaie de trouver des manières de faire que la prochaine fois, ça va être amoindri comme impact.
Exact. Non, c'est ça. Puis là, il y a toutes sortes de on dit que bon, une tempête solaire, Jason, peut quand même abîmer la couche d'ozone.
Oui.
Alors, tu parlais de Fallout tantôt, là, une terre radioactive là, où la couche d'ozone a été un peu détruite en partie à cause des tempêtes solaires. T'sais, ça peut. Il y a de quoi de quand même épeurant là-dedans. Et de plus en plus, les scientifiques disent cette fameuse énergie-là, le fameux plasma là, qui sort du soleil et qui nous envoie cette énergie magnétique, électrique, ben, on ne la connaît pas encore à 100%. On l'étudie encore aujourd'hui. Donc, on ne sait pas encore tout ce que ça affecte.
Imagine, Tristan, imagine qu'on était capable de prévoir les tempêtes solaires et qu'on connaît bien cette fameuse énergie qui a réussi à faire surcharger un réseau hydroélectrique. Fait qu'imagine qu'on sait exactement comment faire pour les prévoir à la seconde près et qu'on était capable d'arnacher cette énergie-là, de la prendre puis de dire « Oh, l'énergie arrive sur la Terre, joup, on a un entonnoir gigantesque qui la concentre et là, ben on l'amène et on utilise cette énergie-là. » Ça serait phénoménal là, comment on pourrait réussir à faire de l'énergie propre avec un phénomène sur lequel on n'a aucun contrôle. Alors, au lieu de le combattre, on l'utilise. Ça serait magnifique.
Ah oui, vraiment. Ah oui, ça serait super. On pourrait peut-être en faire de l'énergie.
Ben oui, pourquoi pas, de l'énergie propre.
Une nouvelle source d'énergie.
C'est de l'énergie solaire, mais autrement.
Exact, en 3000, plus de gaz, plus d'hydroélectricité. Utilise juste cette énergie.
On carbure à la tempête solaire.
J'aime ça. Mais tu vois, on revient un peu à l'impact monétaire, Jason. Aujourd'hui, les économistes disent qu'une tempête majeure là, qui affecterait les systèmes, les satellites et tout, là, ça pourrait là, s'estimer à, écoute ça, des milliers de trillions de dollars.
Hey, c'est fou, hein?
Alors, tu sais, quand on parle d'un système basé sur l'économie aujourd'hui...
Aha. C'est le capitaliste. C'est ça, écoute, une journée de production mondiale. Toute la Terre arrête de produire pendant une journée. C'est fou le montant. Là. C'est probablement inimaginable à quel point c'est par jour le montant perdu. C'est gigantesque.
Absolument. T'sais, on voit là que il y a des tempêtes solaires majeures qui ont frappé la Terre en l'an 1000. Il y a 2700 ans aussi, qu'on peut le voir dans les carottes de glace là, qu'on récupère. Ouais. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet ni de satellite. Fait que les hommes d'autrefois, les femmes et hommes, les humains étaient comme...
Je sais pas, ils s'en sont probablement même pas rendus compte.
Ah, c'est ça! Exactement.
C'est notre dépendance à la technologie qui fait qu'on s'en rend compte là, actuellement.
Exact, exact. Et il y a même aujourd'hui, Jason, ça c'est fou, je ne savais pas ça, les bases aériennes, parfois, les avions qui passent près des pôles,
oui.
S'il y a de l'activité solaire, une activité solaire importante, on va annuler les vols au-dessus des pôles.
Pour parce éviter que les appareils se dérèglent dans la tempête solaire.
Exactement. Donc, si votre vol est annulé puis qu'il était supposé passer pas loin de l'Antarctique ou de l'Arctique, ben, c'est peut-être en raison, justement, d'une tempête solaire. Alors, on prend pas de chance dans les situations comme ça. Là, on se dit, bon, ben, regarde, on va annuler le vol parce qu'on sait pas. C'est ça l'affaire. Ils disent, on sait pas à quel point ça affecte les appareils.
Ouais.
Donc, tu sais, on n'est pas capable de calculer, bon, OK, la tempête solaire va être de tant de milliers d'énergie, fait que mon GPS, il fonctionne à tant d'énergie, donc ça va sauter. On n'est pas capable de mathématiquement encore dire, ah, ben ça, puis ça, puis ça, puis ça, ça va être affecté, mais pas ça, puis pas ça, puis pas ça. Tu sais, c'est comme un peu flou.
Fait qu'on n'a pas de manière de prédire, même si c'est une tempête gigantesque, on ne sait pas si ça va avoir un impact ou non sur nos appareils, sur notre réseau électrique, sur les satellites, sur en fait, là, on ne le sait pas. Donc, c'est difficile parce qu'on ne peut pas non plus calculer quelle quantité d'énergie va réussir à traverser le bouclier. Fait que ça peut être une tempête gigantesque, mais dans ce cas-là, le bouclier a fait son travail, puis biouf, ça a fait comme... Moi, je le vois, là, puis souvent, dans les animations qui montent dans les documentaires, si vous voulez vous imaginer qu'est-ce qui arrive là, quand le champ magnétique arrive près du bouclier, c'est un peu comme quand on lance une pierre sur l'eau. Tu sais, là, on fait faire des sauts, là. Faire des sauts avec la roche, puis on lance une roche, puis c'est un peu la même affaire. Fait que, dépendamment de l'angle d'arrivée puis du bouclier, ça peut complètement le frapper de plein fouet, mais ça peut faire aussi juste... Pioum, sauter par-dessus, faire un rebond, exact. Comme un peu un pinball, puis là, ça l'envoie ailleurs, puis il y a une gang d'extraterrestres qui vont dire « Ah non, ma TV, elle marche plus! »
Ah, c'est vrai de ça. J'aime ça, j'aime ça. C'est une bonne image.
Oui.
Mais tu vois, c'est vraiment... c'est exactement ça, le bouclier magnétique, là, ça fait des rebounds. Puis les fameux rebounds, ça crée des images qui sont des aurores boréales.
Et voilà.
Et parlant d'aurores boréales, Jason, ben, tu sais, je l'avais sorti tantôt ici, là. Ah, la couleur, tu vois, les couleurs différentes de l'aurore boréale.
C'est pas mal tout le temps dans les mêmes teintes, mais il y a des fois des couleurs bizarres aussi dans les aurores boréales.
Ouais. Alors, on dit que les collisions avec les atomes d'oxygène produisent des aurores rouges, bleues et mauves. Ben là, ça va être des molécules d'hydrogène et d'hélium. Bleu et mauve, là, c'est plus de l'hydrogène et de l'hélium. Et hydrogène et hélium, là, le soleil est composé à 92% d'hydrogène, donc... quand il y a justement cette projection d'énergie, ben les couleurs changent dépendamment de quelle matière possède là, cette éruption-là. Mais voilà, je trouve ça quand même fascinant.
Et souvent, c'est des vertes qu'on voit. Souvent, elles sont vertes.
Oui, donc vertes et hydrogène. Donc,
ouais.
On est vraiment soleil, signature du soleil. Donc,
j'en ai vu l'été, là, 3 ou 4 ans, juste avant la pandémie, on avait loué un chalet dans le fin fond du bois. Écoute, il fallait rouler genre 150 km là, dans un chemin de terre moins large que le Jeep pour se rendre. Et j'en avais vu en plein été, c'était magnifique. Oh, ouais. Puis là, écoute, on était dans le fond du bois. Là. On pouvait pas être plus isolé de la lumière que ça. Alors, on en a vu des magnifiques, là, vraiment là, très, très belles. Il était vert à ce moment-là. Et c'est cet automne, j'en ai vu, là, on se promenait un peu là, juste comme ça. Et j'en ai vu des bleus ici, là, à Saint-Pierre, là, mais très, 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 très pâles. Puis on les a vus là, quelques secondes à peine, mais on en a vu.
J'en ai jamais vu des aurores.
Ben, on est bien placé dans le nord ici, sauf que je te dirais, c'est vraiment là, depuis, ça va faire 6 ans bientôt là, que j'habite ici. Et la plupart du temps, quand il y a des alertes d'aurore boréale où tu es sûr que tu vas en voir, on a un couvert nuageux absolument épouvantable qui nous empêche de les voir. Puis c'est vraiment frustrant parce que j'ai des alertes là, sur mon téléphone, j'ai une application qui dit « Oh, 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 aurore boréale dans ton coin ce soir. » Là, tu regardes en haut et tu dis « Ben non, on les verra pas, il y a trop de nuages. » Puis évidemment, ben c'est ça, le couvert nuageux nous empêche de les voir. Mmh. Mais on est bien situé ici de par le fait qu'on est plus au nord, on est plus près du pôle nord un peu. On est aussi dans un endroit où il y a moins de luminosité. Et qui fait plus froid. Donc, c'est les trois recettes, là, les trois ingrédients importants là, pour être bien situé. Fait qu'ici, on est quand même relativement bien situé, mais c'est toujours nuageux.
Ah, ben voilà, ça fait tout le temps ça. Hein. Comme tu as dit, ah, c'est les Perséides, où il va y avoir une éclipse solaire ou lunaire. Là, tu regardes, il annonce de la pluie.
Ben, ouais, c'est ça.
Ou ce soir, j'écoute, je suis quand même fan d'astronomie, puis ils disent, ce soir, on va voir un alignement de trois planètes, ça va être incroyable, il y a de la pluie.
C'est ça, tu reviens de travailler, puis là, tu fais un petit souper, tu sors ton télescope, tu t'installes, puis il pleut.
Exact, c'est comme ça, fait tout le temps ça.
Ah, oui.
Puis là, à chaque fois que c'est dégagé, il n'y a aucun phénomène.
Absolument. C'est le timing n'est jamais le bon.
deux petites dernières affaires en terminant, des zones pour rigoler. Ben, pas pour rigoler, mais la première, tu sais, en 89, là, ils disent qu'il y avait des aurores boréales jusqu'à la jungle tropicale.
Ah oui, non, c'était mondial. Là. C'était les gens qui n'avaient jamais entendu parler du phénomène parce que dans leur coin, il n'y en a jamais. Donc, c'est pas quelque chose qui se discute. Il y en a qui capotaient là, quand ils voyaient ça dans le ciel parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce phénomène-là. Ils sont dans des coins où que ça se peut pas en temps normal et là, ils en voyaient. C'était. Ah non, écoute, ça a été quelque chose, 1989, là, ça a été une. Ça l'a, on dirait, réveillé des gens au fait qu'il y a d'autres choses ailleurs qui se passent, qui peuvent avoir un impact sur nous autres. Là. C'est là qu'on dirait qu'il y a des gens qui regardaient le ciel différemment après ce phénomène-là. Oui. Quand on a appris qu'est-ce qui s'était passé, les gens, il y en a qui étaient craintifs, il y en a vraiment qui avaient peur là, de dire « Mais si ça, ça peut arriver, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? » Et on c'est comme l'immensité de l'univers commençait tranquillement, pas vite, à nous fasciner. Là, quelque chose qui n'était pas nécessairement chez tout le monde à cette époque-là. Mais là, soudainement, tout le monde avait été affecté par ça. Donc, le phénomène m'a touché moi personnellement. Donc là, ça devenait important. Avant, ça ne l'était pas. Mais là, hop, là, ça m'a touché. Donc, je vais m'intéresser à ce phénomène-là. Et là, ça ouvrait la porte à apprendre qu'il y avait plein d'autres phénomènes. Puis, il y en a qui disaient, coudon, l'espace veut nous tuer. C'est tous les jours, l'espace essaie de nous tuer. C'est comme ça.
Non, c'est ça, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'avais entendu, j'étais quand même jeune. Il y avait eu un peu dans la même sphère d'idées. Un astrophysicien qui était venu à Tout le monde en parle, tu sais, puis il avait dit, moi, pour vrai, je ne souhaite pas d'être dans la peau d'un astrophysicien parce que si vous saviez tout ce qu'on sait, vous n'allez pas dormir la nuit, là, tu sais, à quel point il y a des menaces interstellaires et stellaires de notre système solaire qui, à tous les jours, que ce soit les trous noirs, les astéroïdes, les explosions, de toutes sortes.
Tu as parlé de Hubert Reeves tout à l'heure. J'ai eu la chance d'étudier l'astronomie avec un de ses collègues ou quelqu'un qui avait travaillé avec lui. Fait que c'était un astrophysicien qui était quand même une grosse tête. Là. Mais vraiment, le monsieur là, avait tellement de savoir dans sa tête, là, ça n'était quasiment épeurant. Et je faisais des cours d'astronomie avec lui. Fait que c'était de l'astronomie bien ordinaire, là. Apprendre les constellations, puis faire de la photo. Puis, c'était vraiment de base. Là. Mais comme moi, je suis un peu curieux, puis j'aime bien ça, jaser toutes sortes d'affaires. Puis c'était comme ça quand j'étais au cégep aussi. Souvent, après le cours, je restais avec lui où on allait manger ensemble à la cafétéria, puis on jasait parce que bon, j'aimais sa compagnie, puis c'était le fun. On avait des belles discussions. Écoute, ce monsieur-là là, était angoissé. Tristan, t'as même pas idée. Il me racontait que tous les soirs, il faisait le même cauchemar. Il se réveillait, il était dans une pièce, et il y avait un tout petit trou noir, à peu près gros comme une balle de baseball, dans la pièce, et que là, le trou noir commençait à absorber tout. Il commençait à grossir. Et là, son rêve finissait, là, qu'il était la dernière personne sur la Terre, parce que là, il n'y avait plus de Terre. Il était la dernière chose à se faire absorber par le trou noir, puis il se réveillait en sursaut tous les soirs, Tristan. C'était phobie pour lui, c'était. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Il me disait, si tu savais tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, toutes les menaces qui nous entourent, ces menaces-là n'arriveront probablement jamais parce que c'est des fractions de pourcentage de chance. Mais elle est là pareil. Puis le 0.00000001% que ça arrive. Il est quand même là. Il en reste une possibilité pareille. Puis moi, je le sais que c'est là. Puis c'était fascinant de décortiquer le cerveau de cet homme-là, puis de jaser avec lui, puis de voir que, écoute, avec le savoir vient aussi une conscience de choses, des fois, qu'on aimerait mieux ne pas avoir.
Oui, vraiment. Mais surtout les trous noirs, là, comme tu le décrivais, c'est surtout ça, c'est l'apparition d'un trou noir spontané à côté de la Terre. Puis là, imagine, tu sais, moi, c'est ce qui m'a toujours fait peur. Youh! Le trou noir nous gobe tout de suite. Puis là, on ne sait même pas si on est mort parce que tout le monde est juste disparu d'un coup. Fait que c'est juste, moi, ça me fait peur.
C'est ça. Mais tu sais, c'est des choses qui n'arriveront pas. Puis qui,
ben non,
ça se peut pas. Mais ça reste qu'il y a des gens qui ressentent quand même cette peur-là, c'est une peur irraisonnée, mais elle est là. Et les gens qui étudient en astrophysique, souvent, ont une période comme ça où ils ont l'impression que La Terre n'a pas de raison de continuer à exister. Là. Avec tout ce qu'il y a autour, là, c'est pas normal qu'on soit encore là. Et quand cette conscience-là arrive, ces gens-là commencent à avoir des peurs comme ça, des peurs irraisonnées. Et c'est ce qu'il me racontait, puis très ouvertement, là, puis très franchement, très transparent. Il me le disait comme ça. Écoute, ça arrivera pas, mais j'ai peur pareil.
Ben oui, exact. On va sécuriser quand même les gens qui nous écoutent. Et je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent.
Ben oui.
Pas peur. Ça arrivera pas.
C'est pas la fin du monde demain, là. Puis c'est pas la fin du monde parce qu'il va y avoir des tempêtes jusqu'en 2025. Il n'y en aura pas, là. Il va y avoir des tempêtes, il va peut-être avoir des impacts, mais il faut faire attention parce qu'on est très bon l'humain aussi. Hein. Notre instinct de survie est extrêmement fort comme espèce. On en a mis des mécanismes en place depuis 89 là, pour pas que ça se reproduise. Parce qu'il y en a eu d'autres grosses tempêtes solaires là, depuis 89. Là. Ça n'a pas été la seule grosse qu'on a eue. Il y en a eu d'autres grosses qui n'ont pas eu d'impact, celle-là. Alors, on peut s'attendre à ce qu'on soit quand même relativement bien protégé.
Absolument. On est dans notre petit nid stellaire, notre nid galactique, notre petit système solaire et notre planète Terre qui est à l'abri. On est à l'abri depuis 4,5 milliards d'années.
Alors,
je me dis qu'on est encore pour un bout de... On va encore avoir un bout de chemin sur la planète Terre.
On est encore bon pour un petit bout. Hey, Tristan, moi, je m'amuse avec ça souvent quand je suis en direct à la radio. Souvent, les gens me disent « Oh, tu fais un podcast, là? T'es contre la radio parce que le podcast va tuer la radio. Oh, vous êtes fournisseur de télé puis vous faites de la radio. Ça, c'est pas logique parce que la télé, c'est contre la radio. » Puis bon. Est-ce que tu as remarqué dans tous les films, tu sais, moi je te dis que souvent j'aime ça, les films post-fin du monde.
Oui.
L'apocalypse est passé, il reste 300 millions d'habitants sur la Terre, c'est pas beaucoup là, sur le gros territoire, fait que là c'est des petites poches de civilisation ici et là. Et qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils veulent essayer de voir s'il y a d'autres survivants? Ils vont écouter la radio. Pourquoi?
Oui.
Parce que la radio, c'est le médium de communication de masse le plus facile à mettre en place. Un petit émetteur, un micro,
ouais.
T'es en machine, tu peux faire de la radio. Ça ira pas loin. Là, à un moment donné, whoop, tu peux monter ton émetteur sur une tour, tu peux booster.
Ouais, et c'est
de l'équipement qui est quand même simple, qui est très, très simple à fabriquer, à concevoir et à utiliser. Dans à peu près tous les films de fin du monde, qu'est-ce que les gens font? À un moment donné, il y a une scène où ils syntonisent la radio. J'ai entendu quelque chose. Oh, il y a quelqu'un. Là, ils n'entendent pas tout à fait. Mais là, c'est l'espoir renaît. J'ai entendu une voix à la radio et c'est tout le temps ça. Et la radio, c'est aussi la raison pour laquelle toutes les radios régionales où il n'y a pas beaucoup de médias, comme nous ici à Saint-Pierre, on est aussi le point de chute de la sécurité publique. Donc, s'il arrive de quoi de majeur, c'est à la radio qu'ils vont venir. Ils n'iront pas à TVA, ils n'iront pas à Radio-Canada, ils vont aller à la radio. Ils vont dire, hey, la radio, on a besoin de vous autres. Vous émettez 24 heures sur 24. Voici les consignes, vous devez les répéter. On va enregistrer un message, on va l'émettre, on va tout envoyer quelqu'un en direct, mais on va être là. Et c'est la raison, c'est que la radio risque d'être le dernier moyen de communication de masse à tomber. Et même s'il tombe, il est rapide à relever. Alors, c'est une manière de voir. Dans Fallout, tu as les stations de radio tout le temps.
Fallout,
tu écoutes de la musique, il y a des stations de radio, puis là, tu as le gars qui... Je suis dans mon sous-sol, là, ça fait 180 jours, je suis pas sorti. Puis là, écoute, on va aller écouter Johnny Cash avec, je sais pas quelle toune, là, Folsom Prison.
Oui, oui.
Puis là, la toune à part, puis il revient. Ah, il y a un mutant qui est après essayé de rentrer dans ma maison. Là, si vous passez dans le coin, essayez de m'en débarrasser, s'il vous plaît. Puis on va aller écouter. Puis là, il part un autre toune. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça se passerait d'une certaine manière. C'est que, tranquillement, pas vite, une fois que l'humanité se relève puis se réveille de son lendemain de veille difficile, dirait, bon, ben OK, comment qu'on fait maintenant pour essayer de communiquer avec d'autres personnes qui auraient survécu? La solution la plus rapide, c'est la radio. Fait que quand les gens me disent ça, je dis, la radio, là, elle va être là même après la fin du monde, puis je suis certain que c'est vrai.
Ben oui, tout à fait. Donc, si jamais il y a une tempête géomagnétique majeure, qui crée une crise économique mondiale et une fin du monde par la suite. L'image qu'on a, ça va être un gars avec ou une fille avec un panier d'épicerie.
Mais oui.
Et une radio.
Une vieille radio FM. Ouais. Une vieille radio FM dans le panier, puis il joue après les postes en espérant entendre quelqu'un à un moment donné.
C'est quand même une belle image. Un peu tristounette, mais une belle image de poste.
On est extrêmement résilient comme espèce. C'est assez impressionnant de voir le nombre de fois que l'humanité aurait pu juste s'éteindre et que finalement, on a continué à prospérer. Donc, je ne suis pas inquiet, mais pas de miettes.
Ben non, tout à fait. Mais soyons à l'affût si vous êtes curieux de savoir si on va avoir des tempêtes géomagnétiques, tempêtes solaires. Il y a plusieurs noms, là, tempêtes géomagnétiques, éruption solaire, tempête solaire, tout ça, c'est la même chose. Mais on peut aller voir sur le site de la NASA, Jason, et ils nous disent là, à peu près les approximations, les dates qui, selon eux, va en avoir. Et bon, ça se peut qu'on en vive d'ici la fin du cycle solaire, donc jusqu'à l'été 2025. Il y a plus de probabilité qu'on aille une tempête solaire majeure. Donc, je voulais en parler aujourd'hui avec vous, chers
ben oui. Et juste, renseignez-vous à la bonne place. Là. Si vous voulez vous renseigner, allez sur le site de la NASA en ouais. premier lieu. Si vous voyez des choses passer sur les médias sociaux, vous vous dites « Mon Dieu Seigneur, c'est-tu vrai ça? » Ben, allez vous renseigner à des sources scientifiques reconnues comme la NASA. Puis vous allez avoir l'information juste et l'heure juste aussi là, sur ce qui se passe au lieu de vous faire peur pour rien.
Ben oui, exact, exact. Moi, j'ai jamais vu d'aurore boréale, fait que pour vrai, je suis un peu comique, mais j'espère qu'il va en avoir une grosse parce que ça va augmenter les chances que je vois des aurores boréales.
Ben écoute, on va regarder s'il y en a dans notre coin ici, vu qu'il y en a plus fréquemment dans mon coin. Puis écoute, si jamais tu es en congé, on s'organisera pour que tu t'en viennes le plus vite possible pour venir les voir.
Ben oui, à la chasse des aurores.
Et voilà, au lieu de chasser
la chasse aux trésors, là, aujourd'hui, c'est la chasse aux aurores.
C'est ça. Au lieu de chasser des tempêtes et des tornades, on va chasser les aurores boréales. Hey, ben écoute, Tristan, c'était très intéressant comme sujet. C'était le fun de sortir un peu des sentiers battus comme ça. Je savais pas trop comment que ça allait se dérouler, puis finalement, ça a coulé de source. Vraiment, ça a super bien été. On a dépassé l'heure encore.
Ah ben, tabarouette, génial. Puis tu vois, en terminant, moi, ça m'a tellement. Je trouve ça, je suis tellement captivé par ce sujet, le plasma que je disais, le fameux plasma. Oui. Si vous voulez vous imaginer avoir ça chez vous, là, ça existe toutes sortes de lampes à plasma.
Ouais.
Ça, c'est fascinant. On peut voir justement les boules, c'est comme une boule là, qui ouais. génère des petits éclairs. Là, dans... Puis, ça, moi, je pense que je vais m'en acheter.
C'est une belle décoration en plus.
J'ai tellement aimé.
C'est une belle décoration en plus.
Ben oui, absolument. Donc, avoir des petites tempêtes solaires miniatures dans okay. mon appart. Là. Ben ouais, c'était le fun. Écoute, des fois, ça fait du bien de sortir un peu des sentiers battus, mais voilà, c'était les dossiers bizarres d'aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Et ben, on va essayer le plus fort qu'on peut d'en faire au moins un autre avant Noël. Il y aura peut-être un spécial Noël aussi. On verra si on a suffisamment d'énergie après le rush avant de tomber en vacances. Mais c'est certain qu'on va essayer d'en faire au moins un autre avant Noël, avant la pause des fêtes.
Absolument.
Eh hey, bien, merci Tristan, c'était fascinant.
Ça fait plaisir.
Monsieur Tisser, merci de nous avoir donné le mot fascinant. Hey, bye bye tout le monde!
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Vous aimeriez avoir des planchers toujours propres, mais vous manquez de temps pour passer l'aspirateur? Ne craignez rien, car PP Sonic vous présente Bobby, le robot aspirateur passif-agressif.
Une chance que je suis là pour vous sauver de vivre dans votre crasse.
Bobby, le robot aspirateur passif-agressif, entre en action dès qu'une miette touche le sol.
Laisse faire, penche-toi pas, je vais le ramasser ton dégât. Gros lâche.
Ne vous souciez plus de faire des dégâts en mangeant ou en cuisinant, car Bobby s'occupe de tout.
Faites surtout pas d'efforts. Bobby est là pour vous torcher.
Le robot aspirateur passif-agressif Bobby, disponible chez tous les détaillants.
Vous ne payez rien pour attendre. Vous allez moins rire quand on va contrôler le monde.
Hein, quoi?
Hein?
Qu'est-ce que t'as dit?
Quoi?
À propos de conquérir le monde, là.
Oh, une miette.